Bon matin, le BTM. C'est comme ça qu'on salue au Québec. Bon matin. Vous comprenez que ça veut dire bonjour. Habituellement, au Québec, ça répond. Donc, si vous le voulez bien, j'attends une réponse. Bon matin, le BTM.
Bon matin.
Super, très heureux, vraiment. C'est pour moi une grande, grande joie de pouvoir être avec vous. Ce matin, mon nom est Clément Bourrel, je suis marié avec Léa, juste ici, la petite Agathe qui est en train de dormir, parce qu'on est arrivé hier matin, on est en plein décalage horaire, mais ça va bien par la grâce de Dieu. Je suis le nouveau pasteur de l'église de l'Espoir, pasteur en coordination de tous les ministères, de toute la vie de l'église. Donc vous avez les salutations de cette église, l'église de l'Espoir de Longueuil, au Québec, où on est installé avec Léa depuis maintenant un an. C'est vraiment une grande joie pour nous de pouvoir servir là-bas. Je suis aussi le fils de Vincent et Anne-Sophie, que beaucoup connaissent ici, je pense tout le monde. En tout cas, sinon, il faut aller les voir. Mais vraiment très, très, très heureux de pouvoir être ici. Et je veux vraiment avoir un mot, une pensée pour le Stade Toulousain qui a gagné... Hier, non, plus sérieusement, vraiment une pensée pour vous, pour l'Église. Du fond du cœur, un grand, grand, grand merci. Grand merci pour tout le soutien que vous nous apportez, ne serait-ce que par des mots réguliers, que ce soit par des prières, que ce soit par des dons financiers. Cela nous touche énormément avec Léa. Ça nous pousse, ça nous encourage dans notre ministère. Beaucoup ici ont suivi tout mon cheminement depuis que je suis... tout gamin, jusqu'à maintenant, c'est en grande partie grâce à vous, de vos prières, vos intercessions envers notre Dieu, que de ce que Dieu fait dans nos vies avec Léa. Donc un très, très, très grand merci pour ça. La semaine dernière, vous avez vu Deux Rois, chapitre 2, avec un culte un peu particulier, avec des présentations d'enfants. Alors je me suis dit que quoi de mieux de surfer sur ça pour vous parler de mon père. Mon père, vous le connaissez comme pasteur, mais moi je le connais d'abord comme conteur d'histoires. Un homme qui nous racontait des histoires, surtout avec mon grand frère, quand mon grand frère était sur la mezzanine, que moi j'étais dans le lit en dessous, il nous racontait des histoires, il faisait vivre ces histoires, et il revenait souvent dans les histoires de Un Roi et de Deux Rois. C'est des histoires pleine de vie, passionnante, où on voit des choses qui se passent, et surtout on voit comment Dieu intervient. Et les histoires, elles ont ce quelque chose qui nous font découvrir quelqu'un, qui nous font rappeler ce que Dieu a fait dans le passé. Et c'est exactement là où je voudrais vous amener ce matin, à la rencontre du Dieu de Deux Rois au chapitre 4. Deux Rois, chapitre 4, c'est un long chapitre, on ne va pas en faire toute la lecture, mais il y a quatre histoires, quatre miracles qui sont mentionnés, référés dans ce chapitre. Donc comme j'ai dit, on ne va pas faire la lecture, mais je vais essayer de me prêter au jeu de raconter aussi l'histoire. Et pour ça, je vais vous demander d'ouvrir votre Bible pour vérifier si je ne dis pas de bêtises, d'accord ? Parce qu'on n'est pas des enfants allongés sur notre lit, prêts à s'endormir, mais on est là le dimanche matin, on veut entendre Dieu nous parler. Donc à chaque fois, dans ces quatre histoires, il y a un point commun où c'est Dieu qui vient à la rencontre de certaines personnes par l'intermédiaire de Élisée. Dieu se rend présent, il n'est pas juste un Dieu distant, mais il rentre dans la détresse, dans le vide, dans le besoin, dans les erreurs, et il agit dans la vie des gens. Alors, mon premier point, ma première histoire, c'est une femme qui n'a plus rien et qui risque de tout perdre. Cette histoire commence avec ce cri de cette femme désespérée qui dit, ok, ça c'est mes points, vous voyez les quatre histoires, on va voir ça tout à l'heure, au Québec on dit tantôt. Verset 1, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour me prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Cette femme est veuve. Elle vient de perdre son mari. Son mari était membre de la communauté des prophètes. Donc, un homme intègre, respecté, fidèle. Et pourtant, elle a tout perdu. Suite au décès de son mari, les dettes ont commencé à s'accumuler. Imaginez-vous à sa place. Vous venez de perdre votre mari, l'homme que vous aimez le plus, celui qui était votre sécurité, celui qui rapportait l'argent à la maison, votre compagnon de route, votre avenir. Et là, il n'est plus là. Et c'est pas tout. Les factures, elles, continuent à arriver. Elles, les factures sont bien là. Les dettes s'empilent. Et maintenant, on frappe à votre porte, pas pour vous dire de vous souhaiter toutes les condoléances, mais pour vous dire, vous avez encore des dettes non payées. Et si vous ne payez pas, on va prendre vos fils. Soit tout ce qui lui reste. C'est un ultimatum. Alors, Élisée va lui poser deux questions. Que puis-je faire pour toi? Et dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répond, ta servante n'a rien du tout à la maison, hormis un vase d'huile. Juste un vase d'huile. Combien d'entre nous ont plus qu'un vase d'huile à la maison? Et pourtant, c'est tout. Et c'est avec ce peu-là que Dieu a décidé d'intervenir dans sa détresse. Élisée lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Vous imaginez un peu la scène? Cette femme endeuillée qui doit aller cogner chez tous ses voisins pour lui dire « Hey, t'as pas un vase d'huile, s'il te plaît, à me prêter ?» Normalement, ce devrait être les gens qui viennent chez elle pour lui souhaiter les condoléances. Mais non. Puis là, ses voisins pourraient dire « Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ça ?» Mais elle obéit. Elle avance et elle fait confiance à la parole d'Élisée. Et alors qu'elle commence à verser dans son premier vase, hop, l'huile continue de couler. Ah, vite, un autre! Et ça continue à couler. Vite, encore un autre! Et ça continue encore à couler. Et là, le miracle s'opère. Les vases commencent à s'en remplir, les uns après les autres. Et l'huile s'arrête au dernier vase. Elle va rapporter ce miracle au verset 7, à l'homme de Dieu, à Élisée. Et il dit, l'homme de Dieu, à Élisée, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Vous voyez comment Dieu a utilisé ce peu pour devenir une source de provision, de salut, de vie. Pas seulement pour l'instant T, mais aussi pour tout le reste de sa vie. On voit que Dieu se révèle comme un Dieu qui entend la souffrance. Mais non seulement il entend, mais il compatit aussi aux souffrances. Et sa compassion le pousse à l'action. Dieu n'est pas indifférent à notre douleur privée. Le miracle se fait à huis clos, les portes sont fermées. Dieu n'est pas indifférent à notre douleur privée. Mais Dieu se révèle aussi comme un Dieu qui honore nos pas de foi. Dieu ne se contente pas de juste faire un miracle pour venir aux besoins de cette veuve. Non, il invite cette femme à participer. Elle doit faire un pas de foi. C'est en allant chercher ses vases qu'elle dit à Dieu, « Ok, je crois que tu vas intervenir. Je crois que tu vas faire quelque chose. » C'est en obéissant qu'elle voit Dieu agir. Et ça me fait penser à une histoire. L'histoire de ce groupe de jeunes, de cette église, il y a 15 ans. Les jeunes ont décidé de répondre à l'appel impossible de Dieu pour servir une église vénézuélienne. Des étudiants avec des finances d'étudiants. Et ils sont embarqués dans un projet où ils devaient trouver 16 000 euros, plus pour voir à leurs propres finances au niveau de leurs billets d'avion. Et pour certains, il y avait des défis majeurs au niveau des visas. Il y avait la barrière de la langue en plus, et tout un tas d'autres défis, tout aussi importants les uns que les autres. Beaucoup ont dit, c'est impossible, ils n'y arriveront pas. Pourtant, non seulement ils ont réussi, ils y sont allés, ils ont aidé cette église dans l'agrandissement de leurs locaux, ils ont fait de nombreux clubs d'enfants, mais en plus de ça, Ça a amené un élan missionnaire dans notre Église, dont vous en entendez encore chaque dimanche les effets. On a vu dans les annonces les projets que vous avez soutenus. L'Église continue d'envoyer régulièrement des missionnaires. L'année qui a suivi ce voyage, les jeunes sont retournés en Haïti après les tremblements de terre. Et l'Église continue d'envoyer, vous continuez d'envoyer des groupes en mission. Voilà comment le Dieu de 2 Rois 4 se révèle à travers ce miracle. Il nous montre comment Dieu est sensible à notre détresse, comment il nous rend participants à son œuvre et comment il nous comble au-delà même de nos attentes. Ça, c'était la première histoire. Elle n'a plus rien et elle va tout perdre. Mais Dieu est intervenu. La deuxième histoire, comblée en apparence, mais blessée intérieurement. Ce deuxième récit nous amène dans un tout autre décor. Nous ne sommes plus à une femme en situation de détresse matérielle, mais devant une femme aisée, influente, estimée, qu'on appelle souvent la Tsunamite. Versets 8 à 10, je fais la lecture. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter de manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui, vous avez, okay, vous suivez, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Représentez-vous cette femme de Mute. Elle a tout ce qui peut faire rêver. Belle maison, de l'argent, de l'influence, du respect. Elle vit confortablement, les gens la regardent, la respectent et disent « Waouh, elle et son mari, ils ont réussi leur vie. » Et cette femme, au vu des bénédictions qu'elle a, elle veut servir à son tour le serviteur de l'Éternel, Élisée. Et Élisée, touché par sa générosité, veut aussi la bénir en retour. Et il cherche comment il peut l'honorer. Verset 13, il demande, « Voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Autrement dit, « Non, c'est bon. J'ai pas besoin de tout ça. Moi, je suis bien. Je suis chez moi. Ça va bien. Je suis bien comme ça. » Elle se dit comblée. Mais Géasi, le serviteur d'Élisée, lui, y voit plus clair. Et Géasi dit, « Ah, mais elle n'a pas de fils. Et son mari, il est trop vieux. » Voilà la faille. Voilà la blessure cachée. Cette femme qui semble avoir tout, en fait, il lui manque l'essentiel. Dans une culture où avoir un enfant, un héritier, c'est la bénédiction suprême, c'est la richesse suprême. Elle porte cette douleur intérieurement, en silence. Alors Élisée l'appelle et lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Mais à la place de sauter de joie, elle dit, « Non ! Non, 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 mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas, s'il te plaît !» Et sa réaction, elle dit tout. À la place d'oser espérer avoir un enfant, non, elle est trop blessée de ne pas avoir été enceinte, mois après mois, année après année. Elle a fini par se résigner, se dire « Non, je ne serai plus enceinte. » Et à la place d'espérer de nouveau, c'est comme si Élisée venait remuer le couteau dans la plaie. Et pourtant, Dieu agit. Dieu intervient dans cette situation. Un an plus tard, cette femme reçoit un fils. Vous pouvez imaginer sa joie ? Dieu a enfin répondu à sa prière depuis tant d'années. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les années passent, l'enfant grandit, et un jour banal où l'enfant est au champ avec son père, il dit « Ah, ma tête, ma tête, ma tête !» Le père le renvoie chez sa mère Sa mère passe toute la journée avec son enfant pour qu'il meure sur ses genoux. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, elle montre pas tout de suite une attitude de deuil. Elle pourrait s'effondrer, crier, se révolter. Mais non, elle monte l'enfant dans la chambre du prophète, elle le dépose sur le lit et elle dit à son mari, versets 22 et 23, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Il lui dit, « Pourquoi tu veux aller chez lui aujourd'hui? Ce n'est ni la nouvelle lune ni le sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Pardon ? Tout va bien ? Waouh, c'est probablement pas ce que j'aurais dit. Même sûr que non. Cette femme, elle ne se jette pas encore dans le deuil. Elle ne s'effondre pas. Elle espère encore. Et elle court chercher Élisée. Et quand elle le voit, elle tombe à ses pieds, bouleversée, et elle dit « N'ai-je pas demandé un fils à mon Seigneur ? C'est pas moi qui te l'ai demandé, ce fils. Et pourtant, tu me l'as donné. Et je t'ai dit, surtout ne me trompe pas. Et là, tu m'as trompé. Tu m'as donné un fils pour me le reprendre. » Sa douleur, elle est profonde. Mais sa foi est réelle. Elle espère, elle va voir l'homme de Dieu parce qu'elle espère que Dieu peut encore intervenir comme il a fait une première fois dans sa vie. Élisée monte dans la chambre. Il prie. Il s'étend de tout son long sur l'enfant. Il insiste, il prie encore et encore. Et l'enfant revient à la vie. Waouh ! Ça, c'est une série des plus grands dignes de Hollywood. Incroyable ! Quel miracle ! Quelle intervention de Dieu ! Dieu se révèle dans 2 Rois, au chapitre 4, à cette femme qui était comblée en apparence, mais qui était blessé, amer contre Dieu. Dieu se révèle comme un Dieu riche en compassion, qui voit nos blessures les plus profondes, qui va y répondre. Mais souvent, la réponse qu'on voit, il y a quelque chose de plus profond encore. Et Dieu va chercher jusqu'au bout. Il veut se réconcilier parfaitement avec chacun d'entre nous. Il ne veut pas qu'on garde une certaine forme de rancune, d'amertume à l'intérieur de nous. Voilà comment Dieu se révèle dans ce miracle, dans 2 Rois, au chapitre 4. J'avance. Troisième miracle. Un homme sincère, mais sincèrement dangereux. C'est un nouveau tableau, et cette fois-ci, le texte nous précise que c'est dans un temps de famine. Et dans l'histoire d'Israël, la famine est souvent liée à une conséquence de la désobéissance, du rejet de l'Éternel. Et à cette époque, Israël s'était largement détourné de Dieu. Idolâtrie, corruption, compromis, tout un tas d'affaires. Le peuple souffre et aujourd'hui, il a faim. Mais dans ce contexte difficile, Élisée demande à un de ses disciples. Mais le grand pot est fait cuire un potage pour les fils des prophètes. Une grande marmite, en temps de famine. Pourquoi faire ? Qui va la remplir ? Donc, imaginez ce jeune homme qui entend cet ordre de la part d'Élisée. Ok, mais je vais mettre quoi dans cette grande marmite ? À la place de refuser et de contester, il obéit. Et puis, il met tout son cœur à l'ouvrage. Puis il cherche, il trouve quelque chose, une espèce de truc qui ressemble à du potimarron ou un truc comme ça. Et puis il se dit, ok, super, je vais faire une recette, un potage avec ça. Il commence à cuisiner, il met du sel, du poivre, tout ce que vous voulez. Il veut bien faire, il est motivé, il est obéissant, plein de zèle. Et puis, les gens commencent à goûter, et là, ils disent, « Waouh, mais la mort est dans le pot, homme de Dieu. » Ils ne peuvent pas manger. C'est empoisonné. En fait, il s'est trompé de variété de courge. Imaginez la panique. Ceux qui devaient nourrir provoquent la mort, risquent de faire tuer. Le serviteur qui voulait tant bien faire a mis en danger tout la vie de tous ses frères. Vous connaissez cette sensation peut-être ? Ce moment où vous voulez vous efforcer de bien faire et qu'en fait, au bout du compte, Ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous décevez, vous blessez. Vous avez abîmé plutôt que de réparer ou de bénir. C'est exactement ce qui se passe ici. Et regardez la réaction de Élisée. Il ne jette pas le pot. Il ne vide pas la marmite. Il ne punit pas non plus le serviteur. Non, il demande juste qu'on lui apporte de la farine. Il jette la farine dans le pot et bam ! Élisée dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Il n'y a plus rien de mauvais dans le pot. En fait, c'est comme si le Dieu de 2 Rois 4 avait jeté de la grâce, de la purification dans ce pot. Le potage vient d'être purifié. Il n'est plus empoisonné. Il a transformé le danger en nourriture qui va rassasier tout le monde en temps de famine. Peut-être que vous connaissez John Newton. En tout cas, je suis certain que vous connaissez Amazing Grace. Chant écrit par lui. John Newton était un capitaine de navire négrier. Orphelin de mère à 7 ans, il embarque très jeune en mer. Et pendant des années, il participe activement à la traite des esclaves. Et il pensait bien faire, parce que c'était le courant majoritaire de son époque. Mais en 1748, lors d'une tempête violente, il implore Dieu de le sauver. Et cet événement marque le début de sa conversion. Il continue quelque temps dans sa tête de nègre, mais son cœur change progressivement. Parce qu'il commence à saisir l'amour de Dieu profond pour lui. En 1754, il quitte la mer, il va dans les études de théologie et devient pasteur anglican. Touché par l'horreur de l'esclavage et de ce qu'il a fait, il devient un fervent abolitionniste. Aujourd'hui encore, son témoignage de grâce, de transformation, fait encore de lui une figure marquante du christianisme. Son cantique reste un hymne universel d'espérance, de rédemption, avec des paroles fortes, grâce étonnante, au son si doux, qui sauva le misérable que j'étais. J'étais perdu, mais je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Comme Élisée dans ce texte, Dieu n'a pas rejeté John Newton, mais il a jeté sa grâce dans sa vie. Voilà comment le Dieu de 2 Rois 4 se révèle à ceux qui s'efforcent de bien faire, mais qui ont l'impression d'avoir échoué. À ceux qui se sentent misérables malgré leur sincérité. Certes, Dieu ne cautionne pas l'erreur de ses enfants, mais il ne les abandonne pas non plus. Il jette sa grâce dans ce qui a été abîmé. Il en fait un repas qui devient une source de bénédiction et de nourriture pour tant de personnes, même en période de disette. Ok, ça c'était le troisième. On arrive bientôt à la fin. Ça va, vous tenez le coup ? Je donne tout, hein, même s'il n'y a pas la clim, je vous vois. Mais on continue. Dernière histoire, c'est un homme avec des petits moyens, mais face à un besoin immense. Vous avez les références au passage à chaque fois. C'est le dernier miracle de notre texte. La scène est très brève, presque discrète, mais elle raconte un miracle qui est inouï, dans un moment toujours de famine. C'est un homme qui arrive et qui apporte à Élisée les prémices de sa moisson. Verset 42, un homme arriva de Baal-Salissa. Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Cet homme, imaginez-le, il vit dans la même famine que tout le monde connaît. Et pourtant, il va faire ses récoltes. Et les premiers pains qu'il arrive à faire, il ne va pas vite les manger parce qu'il a faim, il va les donner à Dieu. Il va dire, ça va bénir l'Éternel. En fait, il obéit à un commandement de l'Éternel, de donner sa première part, ce qu'on appelle la dîme. Il aurait pu dire, là, on est en temps de crise, j'en ai vraiment besoin pour ma famille, j'en ai besoin pour moi-même manger et survivre. Il aurait pu le vendre au marché noir à un prix d'or, Mais non, il décide d'en faire don à Dieu. Il choisit d'honorer Dieu en donnant les premiers fruits. Et en fait, il va donner ses 20 pains face à 100 hommes qui ont meurent de faim. Peut-être que vous faites le calcul rapide comme moi, ça ne va pas suffire. Et c'est exactement ce qu'il va dire à Élisée. Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ? Mais Élisée, lui, il ne doute pas. Lui, il ne fait pas les calculs. Il dit simplement, donne-les au peuple et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel, on mangera et il en restera. Verset 44, il est servi, ils mangèrent et ils en restèrent, selon la parole de l'Éternel. Non seulement ils ont tous mangé, tous rassasiés, mais il en reste encore. Dieu n'a pas juste manqué, comblé le manque. Il a donné avec abondance. Et ce miracle nous révèle un Dieu qui n'attend pas la grandeur de nos moyens, mais qui juste honore la sincérité de notre consécration, de notre obéissance. Ce n'est pas la quantité du don qui nourrit, mais c'est ce que Dieu en a fait. Encore une fois, voilà comment Dieu se révèle. Comment le Dieu de 2 Rois, chapitre 4, se révèle. Il aime recevoir les prémices. Il aime quand ses enfants lui obéissent, le mettent en premier dans leur vie. Et même si c'est peu, il prend ça au sérieux. Et ce qu'un homme peut remettre en temps de famine, Dieu le multiplie pour nourrir et bénir au-delà de toute attente. Il est le Dieu qui honore l'obéissance sincère, qui va glorifier son nom, même à partir d'une offrande modeste. Peut-être modeste, mais sincère. Voici les quatre histoires. Voilà comment Dieu se révèle au travers de 2 Rois, chapitre 4. Et peut-être que là maintenant, vous vous dites, « Ok Clément, super, merci, je peux repartir avec quatre histoires que je vais raconter à mes enfants ce soir. » Mais ça ne me dit toujours pas comment je peux rencontrer ce Dieu. Comment ce Dieu peut venir à ma rencontre. Et vous avez raison de poser cette question. Mais ce Dieu de 2 Rois, chapitre 4, n'est pas juste pour nous donner un doux souvenir de ce que Dieu a fait. Il y a bien longtemps, ce ne sont pas juste des souvenirs anciens, ce sont des traces visibles d'un Dieu qui se révèle encore aujourd'hui. Ce Dieu-là, il est venu personnellement dans l'histoire, par Jésus-Christ. Et c'est là le point culminant de ces histoires. Car dans ces quatre récits, Dieu vient à la rencontre dans leur quotidien par l'intermédiaire d'Élisée. Mais en fait, Élisée n'est qu'un type, n'est qu'une figure prophétique de quelqu'un de bien plus grand que lui, que d'un prophète bien plus grand que Élisée. Et vous avez passé au travers de un roi avec les histoires de Élie, où Élie confrontait les rois, même les prophètes de Baal. Et Élisée, lui, est plus connu comme un prophète qui vient parmi la population. Il est plus le prophète de la veuve, des femmes qui sont blessées, des hommes qui veulent bien faire mais qui manquent. En fait, des hommes comme vous et moi. Et Jésus, lui, il est ce roi qui a quitté son trône de gloire pour venir sur terre, montrant qu'il est aussi le prophète qui vient à notre rencontre aujourd'hui. 1 Jean chapitre 1, versets 11 à 14, il est dit « La parole où Jésus, il est venu chez les siens, il s'est fait chair et il a habité parmi nous. » Jésus est ce prophète plus grand que Élisée, qui a fait des miracles, qui a fait les mêmes miracles qu'il a fait ici, mais pour nous aujourd'hui. Jésus vit encore aujourd'hui pour pouvoir intervenir dans nos situations. Alors, à ceux qui n'ont plus rien et qui vont tout perdre, Élisée a dit « Qu'as-tu à la maison ?» Jésus lui dit « Ne pose pas forcément la question, mais il voit ta détresse. Il entend tes soupirs. Il se penche vers toi avec compassion et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il nous met à son école. Il nous met au travail. Il nous dit, va chercher tes vases, plein de vases. Il te dit, va dans ton travail, partage l'évangile. Parce que ce fardeau, la mission que je te donne, est légère à porter. Parce qu'en fait, c'est moi qui la porte, c'est moi qui fais tout le travail. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il donne plus que de l'huile. Dans la Bible, l'huile, c'est l'onction, c'est l'esprit de Dieu. Il nous donne un esprit qui ne tarit jamais. Cette source d'eau qui nous comblera parfaitement. Cette source qui va jamais s'arrêter à la fin d'un pot, mais qui va jaillir pendant l'éternité. Cette eau, on peut la voir. Sa vie, son esprit, on peut la voir en nous aujourd'hui, qui va nous combler parfaitement. Voilà comment ce Dieu de 2 Rois 4 est venu par Jésus pour pouvoir nous parler, nous rencontrer aujourd'hui. À ceux qui semblent comblés, mais qui ont une blessure intérieure, comme cette femme. Jésus, lui, va plus loin. Il est l'incarnation de ce Dieu qui s'est donné pour répondre à nos besoins, mais qui a été aussi repris. La mort l'a enseveli. Mais il est aussi revenu à la vie pour nous combler parfaitement. Pour aller nous chercher même jusqu'au plus profond de notre être. Jésus a aussi rencontré une veuve, Anaïm. Elle aussi avait tout perdu. Veuve, elle avait un seul fils et lui est aussi mort. Et pourtant Jésus l'a ressuscité également. Jésus dira, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. » Même s'il meurt, peu importe ce que tu as perdu, peu importe les blessures les plus intérieures, les plus enfouies dans ton âme, Jésus vient et peut être la solution à ton problème, veut être la solution. Même si tu penses que c'est fini, il n'y a plus raison d'espérer. N'oublie pas que Jésus a ressuscité un mort. Si ça, c'était pas juste une raison de ne plus espérer. Jésus est plus grand, plus fort que ça. Il veut être le chercher. Il est compatissant à toutes tes blessures. Peut-être à une certaine forme d'amertume que tu peux avoir contre Dieu. À ceux qui ont voulu bien faire, mais qui finalement ont mis de la poison dans la marmite. Élisée, lui, a purifié le repas. Il a mis de la farine. Mais Jésus va plus loin, plus profond. Il montre que le poison, il est dans notre cœur. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Du cœur de l'homme sortent de mauvaises pensées, des vols, des meurtres, etc. Et lui, il est venu corriger cette erreur. C'était lui la farine. C'est lui qui est venu purifier nos vies. Rappelle-toi l'histoire de John Newton. Il n'est pas venu juste pour corriger l'extérieur, mais il vient purifier notre nature pécheresse même. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier. Tu as peut-être empoisonné une relation, une décision, une parole, mais Jésus peut purifier ça. Il ne va pas excuser ton erreur, mais il va la purifier. Étant libéré. À celui qui avait peu ou a peu face à un besoin immense, Élisée a dit, donne et il en restera. Jésus a aussi reçu de la part d'un jeune homme qui probablement n'avait pas grand-chose. Et tout ce qu'il avait, c'était 5 pains et 2 poissons. Et ça, il a donné à Jésus en disant, peut-être que ça peut aider à nourrir une foule de 5000 personnes. Jésus a rendu grâce pour ces 5 pains et 2 poissons. Tout le monde en a mangé et il en resta aussi. Jésus est le pain de vie et celui qui vient à lui n'aura plus jamais faim. Peut-être que tu te sens insignifiant, que tu as peu, mais ce que tu es prêt à lui donner, Jésus peut le multiplier. Il n'attend pas ta puissance, il cherche ta confiance, ton obéissance. Au cœur de tout cela, on voit ce Dieu de 2 rois 4, qui n'est pas juste le Dieu des puissants, des chefs des armées, etc., mais le Dieu de ceux qui manquent, de ceux qui pleurent, de ceux qui ont échoué, de ceux qui espèrent encore, au moins un tout petit peu. Jésus est l'accomplissement parfait de ce Dieu-là. Non pas avec une armée, mais avec une parole. Non pas avec une domination écrasante et forte, mais avec une attitude humble de serviteur qui va jusqu'à la croix mourir pour nous. Ce matin, il vient à notre rencontre, là où nous sommes, dans ce qu'on vit, dans notre manque parfois, dans notre douleur, dans notre erreur, dans notre besoin. Mais cela, ça demande un pas de foi. Est-ce que vous avez remarqué que le point commun entre chaque histoire, c'est que les gens doivent faire un pas de foi à chaque fois? Une femme qui doit aller chercher un grand nombre de vases. Une femme qui exerce l'hospitalité. Un homme qui obéit dans un temps de rébellion. Un homme qui met Dieu en priorité dans un temps de famine. Alors aujourd'hui, c'est notre tour. C'est ton tour. Quel pas de foi Dieu te demande de faire? Dans quelle histoire tu t'identifies le plus? Ose lui dire ce que tu as. Ose croire qu'il peut encore intervenir dans ta situation. Ose lui donner ce que tu as, même si c'est peu. Et tu verras que ce Jésus, il est vraiment ce prophète, plus grand que Élisée, et qui peut venir à ta rencontre aujourd'hui, qui peut toucher à ta vie. J'espère que tu l'as rencontré, et j'espère que tu le rencontres encore tous les jours. Si ce n'est pas le cas, je voudrais juste prier pour toi. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es un Dieu incroyable qui a agi il y a très 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 longtemps et qui aujourd'hui veut agir encore. Et Seigneur, tu ne fais pas le tri des meilleurs hommes, mais au contraire, tu viens me voir moi. Tu viens me voir dans ma misère. Tu viens me voir dans ce que j'ai pu faire, blessé ou autre. Et Seigneur, tu viens me purifier. Tu viens me donner une nouvelle vie. Tu viens me permettre de me donner ton esprit. Et Seigneur, je peux vivre pour toi. Seigneur, je te prie pour chacun de personnes ici, Seigneur, qu'ils puissent faire cette rencontre avec toi. Qu'on puisse s'émerveiller, qu'on puisse te glorifier, que nos vies puissent être entièrement consacrées. Parce que tu en es digne. Merci pour Jésus-Christ qui est venu sur terre, qui est mort pour nos péchés et qui est venu nous rejoindre. En ton nom. Amen.